Bonjour et bienvenue dans votre journal qui vous offre un tour d'horizon des événements les plus importants à travers le monde. Je suis Nanit Talani. Ce matin, nous reviendrons sur le président Félix Tshisekedi qui défend devant le Parlement les réformes constitutionnelles en RDC. La justice française rejette les accusations de complicité de génocide visant les soldats français lors du génocide rwandais. Les parties civiles dénoncent un déni de justice. Vous suivrez la réaction du président de l'association des rescapés du génocide contre les Tutsis dans nos magazines.
De notre côté, dans notre cœur, dans nos témoignages dont j'ai déjà cité, nous les avons déjà condamnés. Et on aimerait que ça soit aussi, qu'ils doivent aussi traduire en justice. Et dans ce cas-là, on espère qu'il peut y avoir une appel pour que la justice soit faite.
Niger, 10 soldats tués dans une attaque terroriste près du Burkina Faso. L'opposant ivoirien Blé Goudé demande une amnistie pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Rabat inaugure une nouvelle liaison maritime entre Agadir et Dakar. Ce sera en économie et puis en sport, focus sur l'accueil conjoint du Mondial 2023 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Tout de suite, le développement de ces titres. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a avancé mercredi devant le Parlement l'idée d'une réforme constitutionnelle, l'opposition dénonçant depuis des semaines une manœuvre du chef de l'État pour tenter de rester au pouvoir. Les précisions de John Lindon.
Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique, a-t-il déclaré dans son discours annuel sur l'état de la nation. Au terme de son allocution, retransmise en direct à la télévision nationale, Félix Tshisekedi a invité le pays à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations du peuple. Depuis plusieurs semaines, le président congolais fait avancer cette idée à travers le pays. Personne ne va changer ma position sur la révision ou le changement de la constitution, a-t-il notamment lancé le mois dernier à Lubumbashi, à destination d'une opposition qui dénonce un coup d'état constitutionnel et accuse Tshisekedi de vouloir briguer un troisième mandat. Félix Tshisekedi, 61 ans, a été réélu en décembre 2023 pour un second et dernier mandat avec plus de 73% des voix. Ses principaux opposants ont promis des manifestations citoyennes à travers tout le pays.
La Cour d'appel de Paris a rejeté hier les accusations de complicité de génocide visant l'armée française et son éventuelle inaction lors des massacres de Bicicero lors du génocide au Rwanda en 1994. Le point avec Eric Manirakiza.
La Chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu prononcé au profit des militaires et rejeté des demandes d'audition supplémentaires. Lors de l'audience mi-septembre, le parquet général avait requis la confirmation du non-lieu. Je me félicite de cette décision qui rend leur honneur aux soldats que j'ai commandés, injustement accusés de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, a déclaré dans un communiqué le général Jean-Claude Lafourcade, chef de l'opération militaro-humanitaire turquoise. Maître Pierre-Olivier Lambert, qui le défend ainsi que plusieurs officiers généraux, demande à ce que soit accepté que la vérité judiciaire soit la vérité historique. Les associations Survie, Ibuka, FIDH et six rescapés de Bicicero, partie civile, accusent l'opération turquoise et la France de complicité de génocide. Porte-parole de Sylvie François Granet a évoqué un déni de justice. Il leur reproche d'avoir sciemment abandonné pendant 3 jours les civils Tutsis réfugiés dans les collines de Bicicero, dans l'ouest du Rwanda, du 27 au 30 juin 1994.
En Côte d'Ivoire, l'opposant Charles Blé Goudé demande au président Alassane Ouattara de l'amnistie. Acquitté par la justice internationale de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mais toujours condamné dans son pays, cette amnistie lui permettrait de se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025. Davantage avec Mohamedou Oumfa.
M. Blegoudé a appelé solennellement le président à prendre une loi d'amnistie pour que soient effacées les infractions retenues contre les acteurs de la crise de 2010-2011 afin de tourner définitivement cette page triste de l'histoire récente du pays. Le président du COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a été acquitté par la CPI, Cour pénale internationale, pour son rôle pendant cette crise où les affrontements entre le camp du président sortant, Laurent Gbagbo, et ceux d'Alassane Ouattara avaient fait plus de 3000 morts. Mais il reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à cette crise. Si cette peine n'est pas exécutée depuis son retour en 2022, elle l'empêche d'être inscrit sur la liste électorale et donc de se présenter aux élections. « J'ai toujours contesté cette condamnation que j'ai jugée politicienne. C'est une injustice à laquelle il faut répondre », a précisé M. Blegoudé mercredi devant la presse après une rencontre avec des responsables de la commission électorale indépendante où il a appelé au dialogue. « Je ne veux pas qu'on prive l'Afrique et la Côte d'Ivoire de son atout, c'est-à-dire sa jeunesse. Je veux représenter ma génération et je souhaite qu'on ne me prive pas de ce droit-là », a ajouté Charles Blegoudé.
Nouvelle attaque djihadiste meurtrière au Niger. 10 soldats ont été tués dans l'ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, quelques jours après une tentative contre un convoi de civils qui avait fait 21 morts dans la même zone. Le détachement de Petel Koulé a été la cible d'une attaque terroriste dans l'après-midi de mardi. Une horde de criminels venus par centaines à moto a tenté de prendre le contrôle de la position, détaille l'armée nigérienne hier dans son bulletin des opérations. Le bilan consolidé est le suivant. Côté ennemi, au moins 26 assaillants neutralisés. Côté ami, 10 militaires tombés sur le champ d'honneur. 7 autres blessés, poursuit-elle. Le président béninois Patrice Talon a nommé hier 12 ministres conseillers choisis parmi ses alliés politiques et dont l'action se superpose à celle du gouvernement. Soutien politique pro-Talon, ces ministres ont été nommés sur proposition des partis politiques membres de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Les nouveaux nommés sont pour la plupart d'anciens députés et responsables publics.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Christophe Wray, le directeur du FBI, la police fédérale américaine que Donald Trump veut remplacer par un de ses proches, a annoncé hier sa démission pour janvier. Le point avec Rosine Munezero.
Monsieur Wray, en poste depuis août 2017 et dont le mandat s'achève en 2027, a informé mercredi les employés du FBI de sa décision, a précisé la police fédérale dans un communiqué. Après plusieurs semaines de réflexion approfondie, j'ai décidé que la meilleure chose pour le FBI était que je reste en poste jusqu'à la fin de l'actuelle administration, puis de démissionner, a expliqué Christopher Wray, cité dans le communiqué. Donald Trump avait, lors de son premier mandat, nommé Christopher Wray pour succéder à James Comey, devenu sa bête noire, pour avoir enquêté sur ses liens présumés avec la Russie, accusé d'ingérence lors de son élection en 2016. Mais l'enquête du FBI sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 a fait de l'institution plus que centenaire une cible d'attaque. La police fédérale avait jusqu'ici toujours été soutenue par la classe politique. Le président élu américain a annoncé début décembre son intention de nommer Kash Patel, un fidèle, à la tête du FBI.
L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier à une très large majorité un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, un appel symbolique rejeté par Israël et les États-Unis. Nous sommes reconnaissants de ce soutien écrasant. Nous continuerons à frapper à la porte du Conseil de sécurité et de l'Assemblée jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit mis en place, a affirmé le diplomate, un diplomate palestinien, Riyad Mansour. Les forces israéliennes ont procédé à un premier retrait d'une localité du sud du Liban et ont été remplacées par des militaires libanais conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, a annoncé ce mercredi le commandement central américain pour le Moyen-Orient. C'est un premier pas important dans la mise en œuvre d'une cessation durable des hostilités qui jette les bases de progrès continu, a déclaré le général Kouria. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, menacé de destitution après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a une semaine, affirme qu'il se battra jusqu'à la dernière minute.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Rabat inaugure une nouvelle liaison maritime avec Dakar. Les bénéfices de la restauration des terres dégradées dans le Sahel et le renforcement par Washington des hausses des droits de douane sur de nouveaux produits importés de Chine, telle est la Minute Éco par Claire Morin-Gibourg.
Alternative aux routes terrestres coûteuses et dangereuses, le Maroc a inauguré une nouvelle liaison maritime entre Agadir et Dakar. Ce nouveau service veut faciliter les exportations, en particulier celles des produits périssables comme les fruits et les légumes. La restauration des terres dégradées dans le Sahel pourrait générer 28 milliards de dollars grâce au marché volontaire du carbone, selon un rapport du Forum économique mondial et TRI-AID. La Grande Muraille Verte vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et à créer 10 millions d'emplois verts d'ici 2030, mais souffre d'un manque de financement public. Ce déficit pourrait être comblé par le marché du carbone où les entreprises achètent des crédits pour compenser leurs émissions. Washington a renforcé hier les hausses de droits de douane sur de nouveaux produits importés de Chine, notamment des composants essentiels aux panneaux solaires, en vue de protéger l'industrie américaine des énergies vertes en pleine croissance. Ces hausses atténueront davantage les politiques et pratiques néfastes de la Chine, a déclaré la représentante américaine au commerce.
Voici à présent notre page sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La FIFA officialise l'accueil du Mondial 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.
C'est désormais officiel, le Maroc, l'Espagne et le Portugal sont les hôtes de la Coupe du Monde 2030. Ce mondial du centenaire doit unir au total 6 pays, puisque 3 matchs vont se jouer en Amérique du Sud, en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Avec 11 des 20 stades proposés, l'Espagne devrait être l'hôte principal après avoir déjà organisé le mondial 1982. Le Maroc, quintuple candidat malheureux à l'organisation, deviendra de son côté le deuxième pays du continent africain à l'accueillir après l'Afrique du Sud en 2010. Espagne-Maroc se disputent le match d'ouverture et la finale, proposant respectivement le Santiago Bernabéu de Madrid ou le Camp Nou de Barcelone et la future enceinte Hassan II entre Casablanca et Rabat, qui ambitionne de devenir le plus grand stade du monde avec 115 000 places. Le chercheur en politique sportive Monsef El Yazghi prévient.
La FIFA est impitoyable. À tout moment, elle peut arracher l'organisation et la remplacer par un autre pays. Donc le Maroc sera obligé de respecter le cahier des charges en termes d'infrastructures très avancées et de normes internationales, en plus des stades, qui sera un gain pour le Maroc. On peut dire que le Maroc pourra réaliser grâce au sport ce qu'il n'a pas pu réaliser par la politique et l'économie.
Le Portugal, organisateur de l'Euro 2004, propose de son côté les deux stades de Lisbonne et celui de Porto et brigue une des demi-finales. L'édition 2034 a été attribuée à l'Arabie Saoudite, superpuissance en gestation du sport mondial, seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie. Mais les défenseurs des droits de l'homme montent au créneau. C'est le cas de Rodney Dixon, qui est avocat international.
La première chose est qu'il devrait autoriser un vote séparé sur l'Arabie Saoudite. Il ne devrait pas faire les deux ensemble, 2030 et 2034. Mais surtout, il ne devrait pas voter en faveur de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de 2034 sans aucune condition. Il doit y avoir des conditions pour faire respecter les droits de l'homme, comme c'est le cas dans la politique de la FIFA. Ces conditions doivent être mises en place et contrôlées. Dans le cas contraire, les documents de la FIFA et sa légitimité pour l'avenir sont bafoués.
Le royaume ultra-conservateur ne dispose pour l'heure que de 2 des 14 stades d'au moins 40 000 places requis.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie
Bienvenue dans nos dossiers du jour qui mettent particulièrement en exergue deux interviews exclusives sur le projet de réforme constitutionnelle du président Félix Tshisekedi en RDC et sur le non-lieu pour complicité de génocide visant l'armée française. Pour commencer, direction la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a lancé hier, dans son discours devant le Congrès de son pays, un appel à l'unité derrière son intention de réforme constitutionnelle. Eddy Issango a fait réagir de Kinshasa le secrétaire exécutif adjoint du PPRD, parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila, Maître Ferdinand Kambere.
Un discours décevant, en tout cas par rapport à la crise actuelle et tous les défis auxquels le gouvernement est confronté. En réalité, ce n'est pas ce discours-là qu'on entendait par rapport à la sécurité à l'Est, par rapport à l'occupation de notre territoire par les armées étrangères, par des groupes armés. Surtout à la fin, quand il chute par ce qu'il a appelé réforme constitutionnelle parce qu'il n'a pas su former son gouvernement dans l'État. C'est un discours pour nous de l'opposition.
Il a fait appel à tous les Congolais, à l'unité pour que l'on puisse enlever de cette constitution ce qui ne marche pas. En quoi c'est mauvais?
C'est mauvais parce que cette constitution a été rédigée et a pris en compte les crises récurrentes depuis l'indépendance, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Lumumba, les guerres civiles après l'assassinat de Lumumba, la constitution de 64 qui, bien qu'élaborée et soumise au référendum, mais qui, une année après, a été victime d'un coup d'État. Il y a eu un coup d'État institutionnel à 65. On a abrogé cette constitution qui, pourtant, consacrait la démocratie dans notre pays de 64. Les années 90, lorsque finalement cette constitution d'IMPR a été désavoué par tout le monde, il y a une conférence nationale, mais qui n'a pas réussi 6 ans. Ils n'ont pas réussi à avoir une constitution. Donc il a fallu attendre la crise qui est venue après, et que finalement, après l'assassinat de Mouzé, il y ait le roi Joseph Kabila Kabange pour demander à tout le monde de se mettre ensemble. C'était Sand City. Et puis Sand City, de là, on a eu un plus 4 pour avoir cette constitution que nous avons. Donc qui a pris en compte tous ces cheminements-là.
Mais ça ne marche pas.
Il y a des mesures pour que nous ne revenions plus dans des moments de crise. C'est comme ça qu'il y a des grandes infractions, par exemple, des hautes trahisons pour celui qui voudra encore instaurer une dictature dans notre pays, les articles 6 et 7. Alors vouloir y revenir comme ça par un discours où il dit les gens vont se mettre ensemble, l'opposition n'est pas prête pour qu'on revienne sur ça, tout simplement parce que lui est fait un mandat et il faut qu'on revoie ce qui a déjà été verrouillé.
En présentant les bilans des ce qui a été fait depuis le début de son bilan, il dit qu'il y a des avancées palpables.
Non, pas du tout. C'est un bilan catastrophique. L'Est, quand il a hérité ce pays-là, l'Est, il n'y avait pas sur des armées étrangères.
Sur le président Félix Tshisekedi dit dans son discours que l'agression rwandaise empêche aussi le développement du pays, quelque part.
Non, ça veut dire d'abord cette agression, c'est par sa mauvaise posture par rapport aux accords de là où avait mené le pays Kabila jusqu'à l'accord cadre d'Addis Abeba. S'il était parti de ça, il n'aurait pas tous ces problèmes. Le problème, c'est que lui a voulu déboulonner, comme il disait, qu'il a ramené les M23 ici. Il est allé adhérer à l'EAC. Aujourd'hui, l'EAC et l'Ouganda soutiennent les M23 que lui-même a invité ici. Et le grand problème, c'est qu'il ne veut même pas reconnaître ça.
Maître Ferdinand Kambere, le secrétaire exécutif adjoint du PPRD, parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Génocide au Rwanda. La Cour d'appel de Paris a confirmé hier, mercredi, le non-lieu pour complicité de génocide visant l'armée française et son éventuelle inaction lors des massacres de Bisesero en 1994. Les parties civiles dénoncent un déni de justice et réclament un procès élargi. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Kigali au Rwanda Philbert Gakwezire, président de Ibuka, l'association des rescapés du génocide contre les Tutsis.
La décision nous a désagréablement surpris. Nous avons appris cette information avec consternation, mais on sait que tout ce qui concerne les soldats, les militaires français dans l'implication des génocides commis contre les Tutsis, notamment du côté d'Obisetselo. Ce sont des informations, des témoignages que nous avons reçus depuis que le génocide a pris fin. Et franchement, on pensait que le tribunal devait vraiment continuer à poursuivre ces cas. Vu les hautes personnalités militaires qui ont été accusées, et la décision qui a été prise aujourd'hui, pour nous, c'est une décision juridique du côté de la procédure pénale, etc. Mais ça ne sera jamais vraiment une décision du côté historique. Parce que les survivants, l'association Iwuka, de notre côté, dans notre cœur, dans nos témoignages dont j'ai déjà cité, nous les avons déjà condamnés. Et on aimerait que ça soit aussi, qu'ils doivent aussi traduire en justice. Et dans ce cas-là, on espère qu'il peut y avoir un appel pour que la justice soit faite.
Maître Pierre-Olivier Lambert, qui défend ses officiers généraux, demande à ce que soit accepté que la vérité judiciaire soit la vérité historique.
Oui. En fait, ce que je vis, je suis en train de dire dans ce sens-là, c'est que le tribunal peut ne pas avoir des preuves concluantes par rapport à l'accusation. Ça, c'est d'un côté, d'autant plus que lorsque un crime se commet, il y a aussi le fait de cacher ce qui va être comme des preuves dans l'avenir. Ça, c'est autre chose. Le fait que cette décision a été prise aux dépens de notre requête ne signifie pas que le crime d'implication de cet armée n'est pas là. Là, vraiment, c'est une clarification que j'aimerais vraiment bien faire.
Y a-t-il d'autres voies de recours dont vous disposez pour casser ce jugement?
Je pense qu'il y a toujours une disposition, mais on recevra après l'étude approfondie du dossier et voir si nous pouvons avoir trouvé ici et là et d'autres preuves qui pourraient soutenir ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui.
Oui, au-delà du procès, au-delà des recours, que signifie pour vous ce qui s'est passé à Bisesero?
C'est que la complicité entre les soldats de l'armée française et les autorités génocidaires qui étaient en place en 1994, et même les témoignages du côté des officiers français. C'est ce que ça veut dire. C'est que l'armée française ne peut en aucun cas être innocente dans le massacre des Tutsis de Bisesero. En aucun cas.
Philbert Gakwesire, président de Iwuka, l'association des rescapés du génocide contre les Tutsis. Les migrants subsahariens passent par des temps difficiles tout au long de leur périple. À la recherche, pensent-ils, d'une vie meilleure. Certains ont réussi à entrer en Europe, mais parmi ceux qui s'y préparent encore ou qui ont décidé d'abandonner cette aventure, il y a Barthélémy, un ancien migrant économique devenu militant. Originaire du Cameroun, il a créé une association qui se bat pour la cause des migrants à Agadir, au Maroc. Emmanuel Mouadidi Baye et Emmanuel Ngapela l'ont rencontré sur place, suivant leur reportage.
Barthélémy vit au Maroc depuis 16 ans. Il était arrivé dans l'optique de continuer vers l'Europe. Finalement, il a décidé de rester au Maroc où il a suivi des formations et a travaillé dans divers secteurs sans pouvoir vraiment s'épanouir comme il le voulait. Mais il a fini par trouver son chemin.
J'étais avant un migrant économique, aujourd'hui je suis militant pour les personnes migrantes. Qui de mieux qu'une personne migrante pour pouvoir répondre ou bien militer ou bien faire un plaidoyer pour les personnes migrantes. J'ai décidé de contacter d'autres personnes migrantes que je connais qui, eux aussi, veulent militer et œuvrer pour la cause migratoire.
L'association de Barthélémy œuvre dans le bénévolat avec tous les migrants vulnérables, qu'ils soient en situation administrative régulière ou irrégulière. On trouve parmi eux toutes sortes de profils.
Voilà. Et ces personnes-là, nous on met à leur disposition parce que l'orientation ou le référencement, parce que quand la personne vient dans nos locaux, la personne est écoutée, ça nous permet d'identifier les besoins. Quand la personne fait le premier entretien avec l'assistante sociale, après avoir identifié les besoins, on va savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Est-ce que c'est référer cette personne vers une association X ou Y qui peut lui fournir des services que nous ne pouvons pas, ou bien référer vers des services publics, par exemple, si c'est dans le domaine de la santé.
Mariam Kamagaté est originaire de la Côte d'Ivoire.
Oui, je travaille dans une ferme. Je fais la récolte des framboises. C'est la première fois que je viens, voilà, pour avoir de l'aide auprès de l'association, parce que là, c'est pas facile pour nous. Avec un enfant, les hommes sont toujours premiers à fuir. Là, toute seule, les maisons sont chères, la nourriture, s'occuper de l'enfant, franchement, c'est pas facile.
L'association organise régulièrement des activités inclusives, telles que l'art culinaire, qui est au rendez-vous aujourd'hui avec ce maître pâtissier, Thierry.
L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre les bénéficiaires migrants, de pouvoir connaître, maîtriser un métier, de pouvoir pratiquer ça à la maison, de pouvoir pratiquer ça même pour vendre. Parce qu'on a constaté que dans les quartiers, par exemple comme à Laïne, il y a des migrants qui ne font rien à la maison.
Avec son association composée de 4 subsahariens de nationalités différentes et d'un Marocain, Barthélémy a plusieurs projets visant à améliorer la vie des migrants à travers la régularisation de leur situation administrative et la satisfaction de leurs besoins d'assistance et de protection. Il espère ainsi apporter davantage sa contribution au travail que font l'État marocain et certaines ONG pour aider les migrants. Lui, migrant, pour la cause des migrants. Emmanuel Mouadidibaye pour VOA Afrique, Agadir.
Donald Trump a fait savoir qu'il souhaitait éviter de s'impliquer en Syrie après l'éviction du président Bachar el-Assad par un groupe d'insurgés. Toutefois, comme le rapporte Patsy Widakuswara, chef du bureau de la Maison-Blanche, le président élu pourrait devoir équilibrer sa position avec les objectifs des États-Unis de protéger Israël, d'isoler l'Iran et de traiter avec la Russie, la Turquie et d'autres acteurs. Ce reportage de Patsy Widakuswara est relaté par Claire Morin-Gibour.
Les Syriens célèbrent encore l'éviction du président Bachar al-Assad qui s'est réfugié à Moscou. Mais l'avenir du pays est loin d'être clair, car les puissances régionales se démènent pour garantir leurs intérêts. Depuis le sud, Israël a lancé des frappes pour affaiblir ce qui reste de l'armée de l'allié de l'Iran. Dans le nord, les rebelles soutenus par la Turquie se sont emparés de territoires, provoquant la fuite des Kurdes syriens. Le président américain Joe Biden a agi rapidement en lançant des frappes aériennes sur des cibles du groupe État islamique en Syrie.
Les États-Unis travailleront avec nos partenaires et les parties prenantes en Syrie pour les aider à saisir une opportunité de gérer les risques.
En revanche, le président élu Donald Trump a indiqué qu'il était plus enclin à ne pas intervenir.
Il semble que le monde devienne un peu fou en ce moment.
Hayat Tahrir al-Sham, les rebelles qui ont renversé Assad, est un groupe terroriste étranger, selon les États-Unis. Pourtant, M. Trump souhaite que Washington reste en dehors du conflit syrien. Ce n'est pas notre combat, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Tulsi Gabbard, le choix de Trump pour le poste de chef du renseignement, est d'accord.
Il est pleinement engagé, comme il l'a dit à maintes reprises, à mettre fin aux guerres, à démontrer que la paix passe par la force et à mettre les intérêts de la sécurité nationale et la sécurité et la liberté du peuple américain au premier plan.
Mais avec le départ d'Assad, Trump devra peut-être équilibrer sa position non interventionniste avec les objectifs américains de protection des alliés tels qu'Israël et la Jordanie et éviter la résurgence de groupes terroristes tels que l'État islamique.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Nanit Talani, avec à la mise en onde Michel Joseph et Kelvin Fowler à la technique. Nous continuerons tout au long de la journée à vous fournir des analyses détaillées et des informations essentielles pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt.